Europe Midi. Thierry Dagiral.
Bonjour à tous, bienvenue. Il est midi et demi. Elle espérait de l'or, elle a eu de l'argent et une nouvelle médaille pour la France. Elle l'a en judo de Madeleine Malonga. La belle matinée des Bleus tout de même, ce sera dès le début de ce journal. La Martinique à nouveau confinée dès demain et pour trois semaines au moins. Sur place, les chiffres explosent. Le projet s'appelait Hercule, immense projet qui visait à scinder EDF. Projet repoussé après la présidentielle. Explication à suivre. Et puis vos vacances, bilan en demi-teinte pour ce mois de juillet. Faut dire que le temps dans le Nord est mauvais. Nous serons près de Dunkerque où restaurateurs et commerçants font Griezmann. L'invité d'Europe Midi, les vacances commencent pour le président, bientôt à Brégançon. Je recevrai Pierrick G. qui vient de publier L'Élysée à la plage dans l'intimité de nos présidents en vacances.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Ce ne sera pas de l'or, mais de l'argent pour la Française Madeleine Malonga en judo, moins de 78 kilos. Légère déception, mais quel parcours, Julien Froment.
Effectivement, la dernière marche qui a été trop haute pour Madeleine Malonga. Le combat n'aura duré qu'une petite minute. La finale, donc perdue pour la Française, la judoka est tombée dans le piège au sol, bloquée par la Japonaise Shori Hamada, qui l'emporte donc sur immobilisation. La Française, 27 ans, n'a pu contenir ses larmes chez nos confrères de France Télévisions.
Je réaliserai peut-être après que c'est une belle médaille. Mais je voulais tellement le gagner, quoi. C'est des longues années de travail. Et on sait que ça se présente peut-être qu'une fois dans sa vie. Donc c'est important d'être là. Ouais, je pense avoir bien défendu au début. Après, je sais pas. J'ai bougé et puis j'ai lâché la jambe en pensant vouloir me relever. Et au final, voilà. C'est pas grave.
Non, c'est pas grave, Madeleine Malonga. Julien, on revient sur cette matinée à Tokyo avec de belles nouvelles pour les Bleus.
Effectivement, le 2 de couple poids léger féminin séparé d'argent ce matin. Claire Beauvais et Laura Tarantola ont décroché la deuxième place à 14 petits centièmes de la doublette italienne. Deux autres médailles assurées. En escrime tout d'abord, avec le fleuret dames par équipe, les Françaises ont réalisé tout simplement une remontada sur les Italiennes. Elles étaient menées de plus de 12 touches en début de manche. Elles ont fait peu à peu leur retard pour l'emporter. Elles affronteront dans quelques minutes à 12h55. La Russie sous bannière olympique. Et puis autre médaille dans l'escarcelle des Bleus en planche à voile. Charline Picon, la championne olympique en titre, est troisième pour le moment au classement et peut encore espérer récupérer l'argent, voire l'or, mais il faudra un petit exploit tout de même.
Julien Froment du service des sports d'Europe 1. N'oubliez pas, à 13h, votre rendez-vous avec les JO Club Tokyo, présenté par Simon Rubin. La situation à présent, situation sanitaire en Guadeloupe. L'état d'urgence a été décrété avec le couvre-feu de 21h à 5h du matin. Et puis l'île de la Martinique sera à nouveau confinée à partir de demain 19h et pour au moins trois semaines, annonce du préfet de Martinique. Il faut dire que sur l'île, les chiffres du Covid explosent, Caroline Baudry.
Oui, le taux d'incidence a triplé en deux semaines. Il est aujourd'hui de 995 cas pour 100 000 habitants. C'est cinq fois plus que la moyenne nationale. Un chiffre alarmant alors que seuls 15% des Martiniquais sont doublement vaccinés. Le CHU de Fort-de-France est saturé. Toutes les chambres sont occupées, ont précisé les autorités locales. Conséquence, le couvre-feu à 21h, déjà en vigueur sur l'île, est ramené à 19h. Et puis c'est le retour de l'attestation pour se déplacer au-delà de 10 km de son domicile. Les commerces restent ouverts, mais les salles de sport et les restaurants doivent baisser le rideau. Un coup de massue au plus fort de l'été, explique Véronique Bidot-Deschaumes, présidente de l'Union des métiers de l'hôtellerie en Martinique.
C'était pour nous une période importante pour pouvoir refaire un peu de trésorerie pour tenir jusqu'à la fin de l'année. Il faut savoir qu'on n'a pas eu de haute saison depuis deux ans. Je ne sais pas où on va parce que ce n'est pas avec 20% de clients qu'on peut continuer à faire tourner nos hôtels et nos restaurants.
La préfecture a précisé que le chômage partiel spécial Covid et le fonds de solidarité seraient maintenus pour les structures fermées.
Caroline Baudry, autre situation au Royaume-Uni où là l'épidémie décroît et cela depuis la levée totale des restrictions il y a maintenant 9 jours. Une situation qui étonne les experts les plus optimistes et qui pourrait indiquer un vrai tournant dans l'épidémie, Anaïs Cordoba.
C'est une bonne nouvelle accueillie avec prudence au Royaume-Uni. Malgré la liberté retrouvée et ce ralentissement de l'épidémie, ils sont nombreux à garder le masque et à éviter les grands rassemblements comme ces deux londoniens.
Personne ne sait vraiment pourquoi ça arrive et ce qu'il va se passer, donc c'est mieux de rester prudent. Si les cas continuent de baisser, c'est super. Mais moi, je me méfie beaucoup de ce qui pourrait arriver.
Depuis le 17 juillet et le Freedom Day, les nouvelles infections ont baissé chaque semaine de 21% au Royaume-Uni. Plusieurs facteurs seraient en jeu. Moins de personnes qui se testent, une météo plus clémente et les vacances scolaires. Mais pour de nombreux experts, ces chiffres indiquent un déclin durable de l'épidémie. Sur la BBC, Neil Ferguson, conseiller scientifique du gouvernement, va jusqu'à parler du début de la fin.
L'équation a fondamentalement changé. La vaccination a massivement réduit le risque d'hospitalisation et de décès. Et je suis confiant sur le fait que d'ici septembre, octobre, même si le Covid sera toujours là et que des gens continueront d'en mourir, le gros de la pandémie sera derrière nous.
Au Royaume-Uni, 70% des adultes sont totalement vaccinés. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Et puis notez cette initiative du maire de New York qui va offrir 100$ à partir de demain à chaque personne se faisant vacciner pour la première fois.
Europe Midi. Thierry Dagéral vous informe sur Europe 1.
C'était un projet important pour EDF. Il s'appelait Hercule, une immense réforme qui visait à découper EDF avec le nucléaire et le réseau à haute tension d'un côté et les énergies renouvelables et la distribution de l'autre. Mais les discussions avec Bruxelles étaient compliquées et donc le projet ne verra pas le jour avant la présidentielle. Ça mérite des explications, Emmanuel Dutheil.
En effet, ce projet ne verra pas le jour, en tout cas pour le moment. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne verra pas le jour d'ici à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Alors, qui a décidé de ce coup d'arrêt ? À Paris, on dit que ça n'a pas été possible à cause de discussions trop compliquées avec Bruxelles. Et à Bruxelles, on dit que c'est une décision politique prise à Paris. Il faut souligner que les oppositions politiques à ce projet étaient nombreuses. Les syndicats d'EDF n'y étaient pas non plus favorables. Pour eux, ce projet signifie tout simplement le démantèlement d'EDF. Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, a pourtant passé beaucoup de temps ces dernières semaines pour essayer de les convaincre. Yves Verrier, le secrétaire général de Force Ouvrière, s'est félicité de ce report ce matin dans un tweet. Le projet n'est donc pas définitivement arrêté. Les discussions entre Paris et Bruxelles vont officiellement se poursuivre. Mais ce projet que l'on avait qualifié dans un premier temps d'Hercule, puis de grand EDF, devait permettre au groupe, en tout cas aux yeux de l'exécutif, d'investir dans les énergies renouvelables et surtout de rénover le parc nucléaire, puisqu'on a décidé de prolonger la durée de vie de nos centrales. Le PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy, a fait savoir ce matin qu'il regrettait que cette réforme indispensable ne débouche pas dans l'immédiat, soulignant que c'était l'avenir d'EDF en première division qui se jouait.
Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. C'est aujourd'hui ce que l'on appelle la journée du dépassement. En clair, à partir d'aujourd'hui, nous vivons à crédit. Nous avons déjà consommé toutes les ressources que notre planète est capable de générer en un an. Et c'est une manière de faire comprendre finalement que les réserves naturelles de la Terre s'épuisent un peu plus chaque année. Joël Achabas, on parle d'affaiblissement des signes vitaux de la planète. C'est quoi exactement ?
Eh bien, comme pour un être humain où l'on vérifie sa tension, son taux de cholestérol ou son rythme cardiaque, les scientifiques ont mis au point des critères pour s'assurer de la bonne santé de la planète. Il y en a 31, notamment les émissions de gaz à effet de serre, la température de l'océan ou encore l'état de la banquise. Et cette année, plus de la moitié des catégories, 18, ont atteint des records catastrophique. Les concentrations en méthane sont plus élevées que jamais, les glaciers fondent 31% plus vite qu'il y a 15 ans et la déforestation en Amazonie est telle que la forêt émet maintenant plus de CO2 qu'elle n'en absorbe, avec le risque, selon les scientifiques, d'atteindre des points de bascule, comme l'explique Arnaud Goffier, directeur des programmes au WWF France.
Quand on abîme trop certains écosystèmes, quand on émet trop de carbone, derrière on peut faire ce qu'on veut, on ne peut plus revenir en arrière et on a des effets qui s'auto-alimentent et on ne peut plus rien maîtriser. Et ce fameux point de bascule pour l'Amazonie, il est fixé par certains scientifiques autour de 20-23% de déforestation de tout le massif amazonien. On n'est pas loin.
Autre point de non-retour qui inquiète les chercheurs, la fonte des calottes glaciaires en Antarctique pourrait devenir irréversible et les récifs de coraux pourraient ne jamais être sauvés.
Alors on comprend, la situation est dramatique, mais est-ce que ces chercheurs, Johanna, proposent une solution pour essayer de remédier à cette situation ?
Oui, ils avancent plusieurs pistes, comme éliminer les énergies fossiles, réduire les émissions de gaz à effet de serre ou encore privilégier le végétarisme. Mais selon ces chercheurs, le plus important, c'est surtout de réagir au plus vite et de ne plus s'attaquer à chaque symptôme de manière isolée. D'après eux, il faut une politique ambitieuse pour traiter la source du problème, la surexploitation de la planète par les humains.
Explication signée Johanna Chabas. La politique à présent, on va s'arrêter sur cette tribune ce matin dans le Figaro. Elle est signée par l'ex-négociateur en chef du Brexit, Michel Barnier. Michel Barnier qui pense fortement à la présidentielle, à la primaire à droite. Tribune dans laquelle il va très loin sur la question du contrôle de l'immigration, Louis Dragnel.
Oui, en fait, l'idée a souvent été évoquée à droite, mais jamais par le passé, l'UMP ou les Républicains n'ont officiellement émis cette proposition aussi clairement. Un moratoire sur l'immigration. Autrement dit, une pause pendant 3 à 5 ans de l'immigration inconditionnelle, notamment les régularisations automatiques des sans-papiers, 30 000 par an. En veillant à ne pas employer de mots excessifs, Michel Barnier veut accélérer encore le parcours des demandeurs d'asile avec un objectif, éviter les temps d'attente administrative interminables qui provoquent la plupart du temps le maintien sur le territoire de personnes qui auraient dû être expulsées. Autre mesure, lutter contre le détournement des cartes vitales. Chiffre à l'appui, Michel Barnier fait remarquer que l'INSEE recense 7,9 millions de personnes vivant en France nées à l'étranger et de l'autre côté, 21 millions de personnes nées à l'étranger disposent d'un numéro de sécurité sociale. Sa solution pour lutter contre la fraude, croiser les fichiers. Pour terminer, Michel Barnier veut conditionner de manière systématique les aides au développement, 14 milliards d'euros par an, à la reconnaissance par les pays étrangers des clandestins que la France veut expulser. Mais l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy en est conscient. S'il veut mettre en place ces mesures, il faut changer la loi. Et c'est une nouveauté. Cela pourrait passer par une loi constitutionnelle pour empêcher toute juridiction française de s'opposer à ce moratoire. Une loi qu'il veut soumettre par référendum aux Français dès le lendemain de sa possible élection.
Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. En bref, l'homme qui avait représenté Emmanuel Macron en Hitler sur un panneau publicitaire sera entendu cet après-midi à Toulon par la police. Une enquête a été ouverte contre cet artiste pour injure publique par le parquet de Toulon. On en reparlera tout à l'heure dans le journal de 13h. Une mutinerie a éclaté la nuit dernière au centre de rétention administrative du Ménil-Amelot en Seine-et-Marne. 3 personnes se sont échappées. La situation sur place est tendue depuis plusieurs jours. 12h40, les yeux de Tiphaine Véron en graffe sur un mur de Poitiers. Cette fresque a été inaugurée ce matin. Il y a 3 ans, jour pour jour, cet auxiliaire de vie scolaire de 36 ans disparaissait à son arrivée au Japon. Disparition mystérieuse. 3 ans après, sa famille tente toujours de relancer l'enquête, Nicolas Feldman.
Mais où es-tu, ma Tiphaine ? Mais où es-tu, ma Tiphaine ?
C'est une question qui revient sans cesse, qui obsède Anne Désert. Mais depuis 3 ans, la mère de Tiphaine est sans réponse. Une enquête au Japon au point mort. Sur place, les recherches menées par les proches n'ont rien donné.
On espère la retrouver vivante, puis on espère la retrouver, au moins retrouver son corps. Et puis, rien. Quand il n'y a rien, quand il n'y a plus rien, 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 pas une once d'éléments qui puisse prouver un accident. C'est un mélange de chagrin, de désespoir et d'énorme espoir en même temps.
L'espoir de la famille repose désormais sur maître Antoine Vey.
L'affaire semble avoir été traitée dès l'origine comme une disparition puisque aucun corps n'a été retrouvé. On a peu creusé l'hypothèse d'une disparition criminelle.
L'avocat demande à la justice japonaise de nouvelles investigations.
Il y a des éléments manquants, notamment des témoignages de personnes qui étaient présentes dans l'hôtel qui n'ont pas été collectés, des indices de téléphonie qui n'ont pas été exploités. Donc ça, c'est des éléments qui n'ont pas été éclairés d'une façon suffisante. À notre sens.
Et pour tenter de lever ces zones d'ombre, l'avocat a fait appel à un ex-gendarme reconverti dans le privé. Il devrait partir au Japon sur les traces de Tiphaine Véron dans les prochaines semaines.
Nicolas Feldman, un appel aux dons a été lancé. 60 000 euros sont nécessaires. Je vous renvoie sur le site unipourtiphaine.org. Nous sommes le 29 juillet, le moment d'un premier bilan des vacances. Bilan pas trop mauvais avec quelques annulations récentes et beaucoup de réservations de dernière minute. Et puis à part le pourtour méditerranéen, le temps n'a pas vraiment été au rendez-vous de la pluie, des orages. Conséquence, eh bien, sur le littoral dunkerquois, les restaurants et bars font grise mine. Reportage à Malo-les-Bains, signé Maximilien Carlier.
Sur la digue, on voit des habitants équipés pour les averses. Le coupe-vent, le parapluie, le pull, l'écharpe. Cassandra, restauratrice, dépitée par cette météo.
Le mauvais temps est présent. Même l'après-midi, on voit encore des gens avec des doudounes. Enfin, pour un mois de juillet, c'est quasi du jamais vu.
À quelques mètres de là, Alexandre, saisonnier, range la vaisselle de son bar. Il se rappelle, avec un peu de nostalgie, les saisons passées.
Je me souviens, c'était il y a 2 ans, on a mis une semaine à 40 degrés. On sortait avec les amis, on travaillait, le beau temps tout le temps. Là, sérieusement, on a envie de rester chez soi avec ce temps-là.
Conséquence, moins de clients, des terrasses clairsemées. Philippe tient une crêperie bretonne. Baisse de son chiffre d'affaires de 50% par rapport à juillet dernier.
L'année passée, j'étais complet midi et soir. Ça veut dire que le premier service était complet, donc j'avais pas besoin d'attendre les clients. Là, j'ai fait la moitié de réservation et tout le reste, j'attends le client qui arrive. On n'arrive même pas à remplir 40 couverts. En pleine saison, c'est quand même difficile.
Et pas de chance, en plus de la météo, va s'ajouter bientôt la problématique du pass sanitaire. Malo-les-Bains, Maximilien Carlier, Europe 1.
La météo variable en ce moment sur Malo-les-Bains, nous ferons un point complet météo dans un instant. Il y avait ce chapeau, ces lunettes de soleil et cette longue barbe blanche. Dusty Hill, le mythique bassiste des ZZ Top est mort. Il avait 72 ans. Voilà, il était là dès le début du groupe en 1970. 15 albums en 50 ans d'existence. Groupe fondé au Texas qui est devenu un morceau de l'histoire du rock et du blues américain. Il nous reste à voir le temps. Bonjour Marlène Duré.
Bonjour Thierry.
C'est calme aujourd'hui.
Oui, plutôt. Il fait même parfois très beau. Et ce beau temps va se poursuivre cet après-midi sur une grande moitié sud et sur toute la façade est du pays. Alors on peut trouver un ciel un petit peu plus variable du côté de l'Aquitaine. Enfin, ce sera toujours mieux que ce matin au niveau luminosité. Sur le massif central aussi avec un petit risque d'averse. Ces averses se décaleront vers les Alpes d'ici à la soirée. Et puis au nord d'une ligne La Rochelle-Nancy. Donc un dégradé nuageux. Donc un ciel variable qui se met en place avec de plus en plus de nuages attendus de la Bretagne jusqu'au Nord-Pas-de-Calais cet après-midi puisque on sera en marge d'une perturbation qui va se rapprocher tout doucement et qui va donner déjà quelques pluies dans le Finistère, donc dans la soirée. Et puis, au même moment, on aura des averses orageuses qui vont se déclencher sur les Pyrénées. Donc on va retrouver encore une fois de la pluie et des orages en Occitanie pour la nuit prochaine. Les températures, un petit peu comme hier, ça remonte dans le sud-ouest quand même. Comptez 20 à 25 degrés en général sur la moitié nord, avec localement 26-27 en plaine d'Alsace. Et puis 25 à 30 dans les régions méridionale, jusqu'à 30-33 en Méditerranée, puis peut-être même un petit peu plus, 34 à 36 degrés dans le Gard et en Provence.
Merci Marlène Ranger, rendez-vous bien sûr dans le journal de 13h.
Europe 1, Thierry Dagiral.
Et à 12h48, mon invité est l'auteur de L'Élysée à la plage aux éditions du Rocher. Bonjour Pierrick G.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en studio ce midi. Alors qu'Emmanuel Macron, on l'a dit, va bientôt rejoindre le fort de Brégançon dans le Var comme chaque année depuis 2018, pour quelques jours de repos. Vous publiez ce livre sur les vacances des présidents de Gaulle à Emmanuel Macron. Est-ce que les vacances des présidents, ça nous fascine? Pourquoi ça nous fascine autant finalement?
Je pense que ça nous fascine parce que c'est le moment où la frontière entre vie privée et vie publique du président s'efface un peu. Le président en vacances, il se met en scène avec sa famille, avec son épouse, la première dame, qui a un rôle de premier plan pendant les vacances présidentielles, avec ses enfants, ses petits-enfants. Et je pense que du coup, ça fascine tous les Français parce que tous les Français, un peu comme vous savez, avec une famille royale, avec les Windsor au Royaume-Uni, tout le monde se retrouve dans le président en vacances. Parce que le président en vacances, il veut être un Français comme les autres en vacances.
Pierrick G, ces vacances, elles ont évolué, on va le raconter. Vous racontez notamment que pour Georges Pompidou, c'était du 14 juillet au 15 septembre. On n'imagine plus aujourd'hui un président prendre 2 mois de vacances.
Oui, c'était 1 mois et demi de vacances. Ouais. Il changeait 3 fois de lieu de vacances en 1 mois et demi. Et puis, il prenait vraiment des vacances. Il avait son aide de camp qui lui apportait quelques dossiers à paraffer 1 jour sur 2. Georges Pompidou travaillait très vite, donc ça lui prenait quelques heures. Mais il prenait le temps de faire des visites, de recevoir des amis, de réfléchir, d'écrire, mais d'écrire des écrits personnels, de la poésie, des mémoires. Donc, c'était des vraies vacances où le président prenait du recul sur lui, sur sa politique, il prenait le temps de souffler. Et ça, ça a beaucoup changé avec le passage du septennat au quinquennat.
Ah oui,
pardon.
Vraiment ?
Oui, parce que les Français, en plus,
le temps politique est plus court.
Voilà, depuis le passage au quinquennat, le président n'est jamais réélu. Ouais. Et les Français considèrent qu'un président qui a 5 ans pour mettre en œuvre son projet, comme on dit, n'a pas le temps de souffler, il n'a pas le temps de prendre des vacances. Alors que vous imaginez Mitterrand, 14 ans pouvoir, 2 septennats. Ouais. Comme un roi presque. On considérait qu'il avait besoin de prendre 3 semaines, 1 mois l'été pour prendre du recul justement sur sa politique.
Alors il y a des événements mémorables que vous racontez dans votre livre, mémorables et durs à la fois. En 1976, Jacques Chirac, alors Premier ministre, est invité par Valéry Giscard d'Estaing au fort de Brégançon. Mais le président de la République a également invité son professeur de ski de Courchevel. C'est une vraie humiliation pour Jacques Chirac, le Premier ministre, au même niveau que le moniteur de ski. Quelques semaines plus tard, d'ailleurs, il va quitter Matignon.
Oui, on dira que cet épisode à Brégançon a précipité sa décision.
Ah oui,
qui était déjà un peu prise.
Ouais,
mais on dira que cet épisode
c'est
a précipité.
Suprême.
Voilà, c'est l'humiliation suprême.
Ouais.
Parce qu'il n'avait pas supporté d'être invité avec le moniteur de ski qui avait aussi une plage à Saint-Tropez. Et puis en plus, ce moniteur de ski qui était venu en short avec sa femme qui était venue avec une petite robe courte, pas du tout en tenue de soirée. Il avait trouvé que c'était l'humiliation suprême. Surtout qu'il a raconté que Valéry Giscard d'Estaing, ce jour-là, s'était assis sur un fauteuil qui ressemblait à un trône, alors que lui était sur une sorte de chaise, même une sorte de tabouret.
Ouais.
Valéry Giscard d'Estaing, bien sûr, va démentir cette histoire, mais elle a couru dans tous les médias à l'époque.
Vous racontez également le président Valéry Giscard d'Estaing qui partait sans rien dire en Afrique pour chasser en safari. Il n'était absolument pas joignable. Ce serait impensable aujourd'hui.
Ce serait vraiment impensable. Oui, en effet, il profitait toujours, le président Valéry Giscard d'Estaing, d'un voyage officiel mi-juillet en Afrique pour après aller faire une semaine de safari.
Ouais.
Et il voulait que son aide de camp soit à 20 km plus loin de son camp à lui. Et il ne voulait être dérangé en aucun cas, à part s'il y avait vraiment une énorme catastrophe. Et en aucun cas, il ne voulait être dérangé. Et il passait une semaine à chasser. Il se levait très tôt et il chassait toute la journée. Il voulait absolument tuer un élan de Derby qui est la plus grosse antilope d'Afrique. Vous imaginez aujourd'hui le scandale.
Ouais.
Déjà à l'époque, c'était un peu caché. Hein. Les médias n'en savaient trop rien.
Ça. Là,
mais bon, ça se disait en ouverture du JT, on disait le président est en Afrique pour des safaris, mais on ne savait pas vraiment où il était. Aujourd'hui, vous imaginez le scandale que ça ferait.
On va parler de François Mitterrand qui était peut-être le plus mystérieux avec sa bergerie d'Atché, également sa double vie avec Anne Pinjot à Gordes dans le Luberon. C'était leur destination cachée. C'était des moments de retrouvailles entre les deux amants.
Oui, complètement. François Mitterrand, lui, ne voulait pas aller à Brégançon, contrairement à ses prédécesseurs. Il a voulu faire cette coupure. Et donc, il a fait de Latché, sa bergerie dans les Landes, le lieu officiel du pouvoir, où il retrouvait sa famille officielle et aussi où il invitait des ministres, des dignitaires, des chefs d'État étrangers. Et des journalistes aussi. Et les journalistes le photographient à Latché. Et une fois que les journalistes étaient partis, lui allait retrouver sa maîtresse, Anne Pinjot, et sa petite-fille, Mazarine, à Gordes, dans le Luberon, où il avait acheté une toute petite maison. C'était vraiment, il se retrouvait dans cette petite bulle familiale où, là encore, il ne voulait aucun conseiller, aucun garde du corps même. Et dans le Luberon, on voyait le président qui était à peine caché, il mettait un grand chapeau et des lunettes de soleil. On se demandait qui était la petite fille à ses côtés, parce qu'à l'époque, on ne savait pas qu'il avait une petite fille illégitime. Mais on ne se posait pas plus de questions. Là encore, encore une fois, vous imaginez aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tout ça serait impossible.
Jacques Chirac, quant à lui, était plutôt mal à l'aise en vacances. On se souvient de quelques photos d'ailleurs. Il voulait ressembler à un Français normal. Ça fonctionnait assez mal.
Oui, c'est son premier été à Brégançon. Jacques Chirac a fait son premier été à Brégançon et son dernier été à Brégançon. Et son premier été à Brégançon, il était descendu pour une promenade avec, alors en haut, il avait un polo, un short.
Ouais.
Mais
les claquettes
portait,
avec les chaussettes.
Il portait même pire que ça.
Ah,
il
oui.
portait des chaussures de costume, des chaussures de
ah,
ville,
oui.
avec des grandes chaussettes noires. Et donc, on sentait la maladresse de la communication de Jacques Chirac, comme quand il avait reçu Madonna pour un concert au Parc de Sceaux et qui s'était mis un Walkman, un casque sur les oreilles et un sweat à capuche. Il voulait faire français comme les autres, mais il n'y arrivait pas trop.
On se rend compte finalement qu'aujourd'hui, les vacances sont des moments plus périlleux pour les présidents. L'année de leur élection, Sarkozy et Hollande ont totalement raté leur opération de communication et ça s'est finalement retourné contre eux.
Oui, complètement. Nicolas Sarkozy, c'est ses premières vacances aux États-Unis, les vacances de 2007, qui ont vraiment tourné au cauchemar médiatique. Il avait voulu gérer, se mettre en scène pendant 3 jours. Après, il avait dit aux journalistes, ça suffit, maintenant, vous pouvez repartir chez vous, je ne vous donnerai plus d'images. Et puis finalement, des journalistes américains, des photographes américains l'avaient pris en photo en train de faire du canoë-kayak avec Cécilia Sarkozy et Rachida Dati, garde des Sceaux à l'époque. Personne ne savait qu'elle était avec eux. Et Nicolas Sarkozy avait pété les plans, avait pété les plombs, pardon, ouais. avait essayé de voler la pellicule des photographes américains. Ouais. Vraiment, ça avait tourné au cauchemar médiatique. Pareil avec François Hollande, où il avait été qualifié de bidochon en vacances à son premier été à Brégançon, parce qu'il s'était promené avec un polo trois fois trop large au milieu des plagistes de Cabasson. Enfin, donc vraiment, lui aussi, François Hollande d'ailleurs, a été complètement traumatisé hein, par ses premières vacances. Après, il ne voulait plus en prendre. Ouais. Il prenait 2-3 jours à la lanterne à côté de Versailles.
Et d'ailleurs, Pierrick G, pour Hollande, en 2012, la dégringolade de sa cote de popularité s'était amorcée durant l'été. 61% d'opinion positive relevée le 26 juin 2012. Il était passé à 46% en septembre. Donc c'est un peu un été meurtrier, finalement.
Ah oui, je parle de l'épreuve du premier été. C'est vrai que le premier été, c'est une vraie épreuve pour un président. Hollande, ça avait été vraiment une épreuve qu'il n'avait pas réussi à passer, justement. Alors que c'est le président qui a pris le moins de vacances de toute la Ve République. C'est celui à qui on a reproché aussi d'en prendre trop, ce qui est complètement faux.
On parle toujours des 100 premiers jours, hein, lorsqu'un président arrive à l'Élysée. Justement, cette période estivale, elle fait partie de ces 100 premiers jours, et c'est important, quoi.
Oui, complètement, complètement. Le choix du lieu de vacances, le choix de la mise en scène des vacances est important. On voit bien avec Nicolas Sarkozy, c'est le dernier président à être allé à l'étranger. Aujourd'hui, ça serait impossible pour un président de la République d'aller passer des vacances à l'étranger. Emmanuel Macron, son premier été, il y avait eu la rumeur en mai, comme quoi il allait aller en Italie. Et rien que ça, qu'il aille en Italie, ça avait fait scandale. Donc, il était allé à Marseille parce qu'à l'époque, il ne pouvait pas aller à Brégançon, qui était encore ouvert au public. François Hollande l'avait ouvert au public.
Je le disais, Emmanuel Macron va partir dans quelques jours sur Brégançon pour des vacances, dit-il, déterminé et concentré. Déterminé et concentré, ce n'est pas vraiment des vacances.
Non, Emmanuel Macron ne prend pas vraiment de vacances. Il part 3 semaines à Brégançon, mais on peut en plus, c'est la tendance en ce moment, c'est du télétravail à Brégançon. Ouais. Il change de décor, il passe de l'Élysée à Brégançon, mais il continue à appeler des chefs d'État étrangers.
Mais parce qu'il
n'arrive
pas à prendre de vacances, il n'arrive pas à se reposer, on dit qu'il dort très peu.
Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus prendre de vacances, ce ne serait pas accepté. Vous imaginez un président qui est photographié sur un transat alors qu'il y a une crise sanitaire. Ouais. C'est impossible. Donc, bien sûr, Emmanuel Macron va présider un conseil de défense sanitaire pendant ses vacances. Bien sûr qu'il va travailler du matin jusqu'au soir, et il va certainement prendre le temps d'une petite baignade le soir avec les petits-enfants de Brigitte Macron, mais ce sera tout.
L'Élysée à la plage, dans l'intimité de nos présidents en vacances. C'est aux éditions du Rocher. Grand merci à vous, Pierrick G.
Merci.
Merci beaucoup.
Europe Midi, Thierry Dagiral.
Dans un instant, votre journal de 13h, puis Club Tokyo. Bonjour Simon Rubin.
Bonjour.
Alors, on va fêter Madeleine.
Eh oui, bien sûr, Madeleine Malonga, médaillée d'argent en judo en moins de 78 kilos. On entendra ses larmes, évidemment, de déception, parce qu'elle a été balayée en finale. On célébrera aussi la médaille d'argent de l'aviron et on suivra en direct la finale du fleuret par équipe, les Françaises qui jouent l'or en ce moment.
A tout de suite, Simon. Bel après-midi à tous sur Europe 1. Rendez-vous bien sûr ce soir dès 18h. A tout à l'heure.